Bonjour, Ramon Chao, écrivain, essayiste et journaliste, est décédé le 20 mai 2018 à Barcelone. Pour lui rendre hommage, nous diffusons une interview En Marche, enregistrée à Nantes en 2006. Je ne sais pas si c'est un endroit qui vous inspire.
Pas pour le moment.
Un restaurant universitaire.
Ça, je le sais quand même fréquenté. Et j'ai un très bon souvenir. Pas universitaire, hein, parce que j'ai toujours eu un complexe de ne pas être allé à l'université. J'étais pianiste, et parce que mon père m'a forcé, et je songeais à aller à l'université faire des études de lettres. Mais je n'ai jamais pu. J'ai eu un père très tyrannique, il voulait que je sois pianiste, alors ça m'a toujours manqué, cette formation universitaire. Maintenant, je pense que c'est pas la peine, enfin, je n'ai pas besoin. Je pense que la musique est très formatrice pour moi, mais enfin, jusqu'à récemment, j'ai toujours été complexé.
Est-ce que vous êtes un grand marcheur?
Ouais, depuis pas longtemps, hein. Enfin, depuis 6 ans, j'ai eu la chance d'avoir une hémorragie cérébrale. Hein. J'étais dans les vapes pendant longtemps, pendant quelques mois, mais après on m'a conseillé de marcher, et depuis c'est un plaisir de marcher. Je marche beaucoup, tous les jours, je pense que tous les jours, 1 heure. Le matin. Et là, maintenant, par exemple, pour venir déjeuner, on nous avait proposé une voiture. Je préférais venir à pied et je marche tant que je peux.
Ça vous permet de réfléchir aussi, de faire le vide?
Non, non. C'est vrai que c'est dans un but utilitaire parce que je profite pour faire les courses, hein, chez moi. S'il faut acheter du lait, etc., je descends à pied. Je cherche la moindre excuse pour me promener. Mais pour réfléchir, non. J'utilise plutôt le lit. C'est-à-dire que la nuit, quand je me couche, je reste 1 heure à penser, à réfléchir sur ce que je dois écrire le lendemain. Et c'est curieux parce que la nuit, le cerveau continue de travailler. Alors le matin, très de bonne heure, parce que je me lève vers 5 heures du matin, mais des solutions à des petits problèmes d'écriture, je les ai résolus. C'est très, très, très intéressant.
Ça veut dire qu'on ne dort pas complètement?
Non. Non, 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 mais enfin... Oui, j'ai l'impression d'avoir dormi. Je pense que j'ai dormi, mais quand même... Je ne sais pas pourquoi... En me réveillant, j'ai la solution. Et ça, j'avais appris ça de García Márquez. Il m'avait dit qu'il faisait ça. Que le soir, il préparait les sujets qu'il allait aborder le lendemain et que la nuit lui servait pour mieux conclure tout ce qu'il voulait faire.
Je m'étais proposé de rencontrer l'écrivain, mm-hmm. pas le spécialiste de la guerre d'Espagne, mm-hmm. ou du cinéma espagnol,
ouais.
Et vous me dites, mais je suis encore un apprenti.
De quoi, écrivain?
Oui.
Mais bien sûr. J'ai toujours eu des complexes, depuis toujours, parce que, en fait, ma formation est musicale. Et quand j'arrive à Paris en 55, je tombe dans un milieu très intellectuel, au Collège d'Espagne, à l'université universitaire, où la musique n'était pas très cotée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de peintres, d'écrivains, il y avait... Et je ne pouvais pas parler avec eux de leur sujet qui les tenait à cœur. Et le mien, il ne connaissait pas. Alors moi, je pensais que j'étais analphabète. Alors, peu à peu, et ça a duré beaucoup, j'ai conclu que finalement la musique est un grand moyen de connaissance et de comportement dans le monde. Mais enfin, j'ai toujours été complexé parce que pour me gagner ma vie, je suis rentré à Radio France. Enfin, à l'époque, c'était pas Radio France, c'était la ORTF. Comme illustrateur sonore. Ça veut dire à l'époque ça s'appelait le metteur en onde. Je ne sais pas si ça, ça se dit encore comme ça. Alors metteur en onde, et peu à peu j'ai commencé à faire des critiques de musique, des disques, etc. Et peu à peu je suis devenu journaliste, mais toujours complexé. Mais pourquoi je suis journaliste? C'est pas possible. Et peu à peu on m'a promu, je suis devenu chef de service, tout ça, mais toujours avec cette impression de ne pas mériter les niveaux que j'obtenais. Alors ça m'a permis de déléguer. C'est-à-dire que comme j'étais sûr de ne pas être l'auteur, j'étais obligé de chercher des gens qui savaient travailler et qui connaissaient le sujet. Alors ça fait que ça a très bien marché et que j'ai formé une très bonne équipe, tout ça en croyant, en étant sûr que je n'étais pas l'auteur.
C'est être un bon chef.
Et oui, il paraît. Il paraît.
Il faut savoir déléguer.
Mais je l'ai fait par intérêt personnel. Hein, pour me couvrir, donc j'ai eu de très bons collaborateurs qui sont toujours là et le service marche très bien.
Il va falloir relever un peu la tête.
Ouais. C'est quoi? Ah, ici. Ah, Jules Verne, oui. Jules Verne, oui. C'était une de mes lectures de mon enfance. Oh, oui.
Oh, oui. Bon, vous aspirez à avoir votre nom sur votre maison d'enfance?
Je n'y songe. D'abord, la maison d'enfance est détruite. C'est terminé. J'étais né dans un hôtel, enfin, qui avait mes parents, une auberge. Et j'y ai vécu. Et il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, ça a été vendu par ma sœur. Enfin, nous, on aurait voulu le garder, mon frère et moi, et faire un centre culturel. Et l'a vendu. Et maintenant, je n'ai plus de maison natale. Donc, cette possibilité est écartée.
Et l'idée d'écrire pour la postérité, ça vous a effleuré?
Non. Maintenant, je me demande pourquoi l'on écrit vraiment, parce qu'il n'y a pas de postérité. Borges, qui devrait être le plus immortel des écrivains, il nous disait, j'aimerais bien que dans quelques milliers d'années, qu'il reste un vers de moi, comme, il disait, comme l'Empire, le grand Empire portugais. Qu'est-ce qu'il reste de l'Empire portugais? Alors il disait, quelques mots en chinois, en mandarin, quelques mots dans les langues africaines, Cameroun, etc., Gabon. C'est tout ce qui reste du glorieux empire portugais. Donc, vraiment, et la petite gloriole d'écrire, d'être vivant quand on vous invite, etc., bon, vraiment, ça mieux. Enfin, on écrit pour passer le temps bien, pour passer la vie bien. Ou mal, parce que c'est quand même difficile. Hein. Mais ce n'est pas difficile parce que moi, j'écris, je me lève à 5h du matin, mais je me demande ce que je ferais autrement. Je ne pourrais pas faire autre chose et je mourrais dans la nuit.
Vous écrivez avec Ignacio Ramonet
sur la mondialisation, l'altermondialisation. Oui. Là, c'est vrai qu'avec Ignacio et avec Bernard Cassin, etc., on s'est embarqué dans une très belle entreprise, Action.
Dictionnaire.
Oui, c'est un dictionnaire partial et partiel. Parce que Ignacio et moi, on a tenu à ce que les titres figurent. Ces deux adjectifs, il est partial et il est partiel. Mais en fait, d'après moi, c'était pour paralyser la critique. Si on veut nous dire, oui, mais vous n'avez pas mis... Non, il est partiel. Et si on nous dit, pourquoi vous êtes toujours anti-américain? Parce qu'il est partiel. Donc, oui, on a fait ça. D'ailleurs, il ne faut pas oublier Wozniak. Wozniak, c'est le dessinateur qui a fait les illustrations. C'est un grand... dessinateur, on peut le découvrir toutes les semaines dans le Canard Enchaîné. Et maintenant, on a un projet qui est déjà presque terminé. Enfin, je pense qu'il n'assure que de le conclure. Il va terminer dans Favoir 2. Et c'est une espèce d'abécédaire, mais chronologique, sur les interventions américaines, sur l'expansionnisme américain. Donc, le premier, on l'a fait un peu... Je ne dis pas pour... Si, de toute façon, ça nous amuse de le faire. Mais celui-là, il est plus combatif. C'est-à-dire, c'est plus direct. Parce que la mondialisation, il n'y a pas d'ennemi précis. C'est-à-dire, ça, c'est dans l'air. Le néolibéralisme, c'est une nébuleuse. Mais les agressions américaines, elles sont très précises depuis que les 13 colonies anglaises se sont installées aux États-Unis. Ils ont commencé par éliminer les Indiens, les bisons, et ensuite les Texas, ensuite Cuba, Porto Rico, etc., jusqu'à aujourd'hui l'Irak. Et ça, c'était dans un but très précis pour lutter contre l'impérialisme.
C'est l'écrivain qui s'engage.
Enfin...
Ça vous fait rire, ma question?
Non, parce que je ne veux pas me prendre au sérieux. Je ne veux pas dire « je m'engage ». Non, non. On a fait ça parce que... Mais pas pour se dire « on est très bien, on est très engagé ». Non, non, non. Parce qu'on connaissait bien les sujets, etc. Et c'est vrai qu'on est très... anti-américain. Mais c'est que je n'aime pas, je ne veux pas me prendre au sérieux, vous voyez. C'est ça, c'est pour ça que j'ai un peu ri.
Et par contre, le sujet est sérieux.
Mais bien sûr, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, ce qui est en train d'arriver aussi à cause de la position des États-Unis dans toutes les conférences internationales pour l'écologie, etc., etc. C'est un désastre. C'est un désastre qui va nous précipiter. Je suis très pessimiste. Il va nous précipiter vers la fin de l'humanité. Alors, bien sûr que c'est sérieux.
On va demander aux gens s'ils sentent qu'on est en train de se précipiter vers la fin de l'humanité.
Ah. Oui, ah oui, ah oui, ah oui.
On va voir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de se précipiter vers la fin de l'humanité en ce moment?
Non.
Non. Non. Là, tout de suite, là, non. Non, mais ça va, là.
Donc pas tout de suite, tout de suite.
Moi, je pense qu'avant la fin du siècle.
Je sais pas.
Je pense que mes petits-fils, j'ai deux petits-fils qui ont 6 mois, ils peuvent voir la fin du monde. Je le pense.
Mais non.
Je ne pense pas.
Non.
J'ai le temps. Mes enfants ont le temps, mes petits-enfants ont encore le temps et mes petits-petits-enfants ont encore plus le temps.
On espère, en tout cas.
Oui, mais pour la moitié de l'humanité, déjà, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez la moitié de l'humanité en Afrique, etc., qui meurt de soif, qui meurt de faim, etc. Déjà, la moitié de l'humanité, c'est comme ça. Et l'autre moitié, ça commence à gagner du terrain. Donc, pour moi, un siècle, c'est beaucoup.
On verra bien. Vous n'avez pas le sentiment que la planète se dégrade, qu'il y a des problèmes d'écologie?
Si, mais bien sûr, c'est toujours après, voilà quoi. On ne peut pas, nous, on ne peut rien faire à notre âge. C'est aux politiciens de faire quelque chose, je sais pas. C'est pas à nous d'essayer de bouger les choses. On a absolument rien pour ça, quoi. On n'a rien, on n'a pas d'armes, voilà, on ne sera pas entendu. Donc ça sert à rien. Pour nous, non, mais peut-être, je sais pas, peut-être que nos enfants ou peut-être que nos parents vont faire quelque chose, mais nous, on ne peut rien faire pour l'instant.
En hommage à Ramon Shao, cette interview En Marche, enregistrée à Nantes en 2006. Est-ce qui fait que vos enfants feront plus que vous?
Parce que nous, on s'en rend compte peut-être un peu plus que nos parents. Peut-être qu'on les bougera un peu plus que eux le font.
Et parce que les gosses sont plus chiants de plus en plus tôt.
Ça vous fait frémir?
Non, mais finalement, non, je pense qu'on arrive aux mêmes conclusions. Parce que je pense qu'il n'y a pas de solution. La solution, ce sont les États-Unis qui l'ont, et l'Europe, hein, qui se mettent d'accord pour contre les transgéniques, contre les en faveur de l'écologie, etc. Et on pourra, mais c'est vrai qu'un individu comme ça ne peut rien.
Bien sûr, on est d'accord sur ce point-là.
On restera d'accord là-dessus.
Qu'est-ce que vous faites?
Dans la vie?
Oui.
Étudiant. Pareil.
Travail.
Je suis une génération, on a l'impression que vous pouvez faire bouger le monde.
Ouais. Moi, je pense que l'Amérique latine peut le faire encore. Hein. Je pense que Chavez peut le faire, que tel que ça s'oriente avec la Bolivie, peut-être le Pérou dans quelques jours, le Mexique qui va aussi tomber du côté des impérialistes, ça peut changer. S'il y a un continent qui prend un chemin comme ça, ça peut changer les choses. Ouais.
Bon, je vous fais les présentations. Je suis en train d'interviewer Ramon Chao, écrivain, journaliste, musicien.
Et père de Manu Chao, que vous connaissez.
Faut le dire.
Oui. Je suis le père de Manu Chao. Oui. Bon, le reste, je vous raconte que François-Olivier Gisbert, dans une interview qu'il m'avait faite à la télé, il avait dit, et avec nous, le fils de Manu Chao. Alors j'ai dit, non, le père. Alors c'était pas en direct. Alors, le père de Manu Chao. Et après je lui ai dit, écoute, si tu es courageux, tu laisses ce que tu avais dit. Et il a laissé. Donc j'étais donc le fils de Manu Chao.
Bonne journée.
Merci.
Vos prénoms?
Merci.
Morgane.
Anne-Charlotte.
Anne-Charlotte.
Et Alan. Et Alan.
Pas présenté comme le hein? Vous êtes
mais moi je préfère, hein, parce que je sais aussi, parce que je suis pas dupe, je pense que si maintenant, je ne dis pas à vous, hein, mais si les gens s'intéressent à moi, etc., c'est parce qu'ils entendre dire ou lire, etc., les pères de Manu Chao, qu'on s'intéresse davantage à moi. Ça, c'est, je suis convaincu. Et d'ailleurs, je lui avais dit à Manu, et il m'a dit, bon, si quelqu'un de la famille en profite, tant mieux, parce qu'il y a tellement de gens qui m'utilisent et qui profitent de moi, alors si c'est quelqu'un de la famille, très bien.
Moi, c'est plus parce que vous êtes le père d'Antoine. Mais...
Ah oui, d'accord, oui. Mais Antoine, c'est quelqu'un d'important, hein. D'abord, il avait créé avec Manu, Manon Negra et des autres groupes. Et après, pour des raisons X, familiales, etc., il a abandonné le groupe. Mais c'est quelqu'un d'important.
Des cafés. Un café heureux.
Bonjour.
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 Laurent.
Bonjour. Laurent.
Bonjour.
Enchanté.
Ramon Chao.
Ramon Chao.
Le père de Manu.
Le père de Manu.
Oui.
C'est vrai?
Ah bon?
Ah pardon.
Vous le saviez aussi.
C'est vrai?
Mais vous savez qui c'est Manu?
Manu Chao.
Ah oui, mais c'était une blague, vous le saviez, que j'allais venir. Et que je...
hein? Ah non, j'ai pas prévu,
c'est
une intuition.
Ah ouais. Ouais.
En fait, moi, j'allais pas vous présenter comme c'est vous qui...
Ah oui, c'est moi qui me suis précipité, oui.
D'accord.
Oh ouais.
Je
croyais que toute votre famille était d'origine de Galice, c'est vrai?
Je suis galicien.
Voilà.
Oh oui, je suis galicien. Et Manu est à demi galicien et à demi cubain.
À demi cubain, d'accord. D'accord.
Et pourquoi vous cachez Manu Chao?
Parce que je ne le cache pas, justement. Il est en permanence ici. Cette photo, elle date d'un concert où Stéphane, un de ses amis, là, devait m'emmener.
Ouais.
Et en fin de compte, il a eu peur qu'il y ait trop de monde. Il m'a dit, je t'emmène pas parce que je pourrais pas rentrer.
Ouais.
Et en fin de compte, Manu a fait ce concert pour remercier un de ses copains qui l'avait apparemment hébergé à une époque. Et en fin de compte, j'aurais pu y aller.
Où j'étais ici?
Non. Et donc Stéphane m'a dit, écoute, tiens, je te fais un petit cadeau quand même. T'es pas venu, mais je te fais la... J'ai réussi à prendre Manu, pas de problème. Il veut bien qu'on le prenne en photo.
Non. Il n'est pas comme... vraiment très, très bon, très gentil. C'est vrai. Et je pense que ça, c'est ça, dans l'aura qu'il aimait. Et je pense que c'est une grande cause de sa réussite. Et ça se voit qu'il est très gentil.
Ouais.
Enfin... C'est comme ça.
Il tient de son père.
Bon, j'espère qu'il est mieux.
Est-ce qu'il a du mal à conserver justement cette autonomie de fonctionnement par rapport au show business,
C'est terminé.
Oui.
Il a quitté tout. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Bon, disque, il en sort un tous les 5 ans.
Oui.
Alors que s'il avait été chez Virgin, il aurait fallu qu'il produise un par an au moins. Manu a une maxime qui dit... Le temps ne pardonne pas ce qui a été fait sans lui. Il faut apprendre à être lent.
Au revoir, monsieur.
Et il l'applique. Il l'applique. Et il n'aurait pas pu le faire dans un major. C'est pas possible.
On n'a pas eu le fils, mais on a eu le père.
Je trouve que le père, il parle trop de son fils.
Trop, hein.
Il fait des choses, le père.
Oui.
Non. Le mieux que je fais, c'est Bessonfort. C'est vrai, hein? C'est vrai. Pas de revenir. Hein.
Bonjour à Manu, il ne connaît pas.
Je le dirai. Non, mais
je ne connais pas. Mais
je l'ai rencontré, j'étais ici, de l'histoire de la photo et tout ça.
Entendu?
Au revoir. Ça va très bien, c'est...
Bonjour.
Mais tu l'avais pas préparé, non, ce monsieur?
Ah non, non, non.
Non,
non, c'est la spontanéité, c'est bien.
D'accord, ouais, non, bien sûr. Oui.
Ah bah oui. Ça crée des petits. des petites choses.
Ouais, ouais, ouais.
Oh non, c'est au feeling, moi.
Oh, là, il y a une belle librairie, hein. Pour faire.
Là, il y a des beaux chocolats.
Moi, je suis un grand chocolatier. Oui, je fais souvent du chocolat, c'est-à-dire cuit, etc. Et je suis un grand chocolatier. Il y a une théorie d'un grand médecin espagnol, Marañón, qui disait, il parlait des vertus du chocolat. Mais il ne parlait pas, il disait pas qu'il soit aphrodisiaque. Il disait qu'il stimule le sentiment amoureux. Ce qui revient à la même chose finalement. Parce qu'on ne sait pas comment c'est, si l'érotisme ou l'amour. Mais lui, il disait que le chocolat stimule le sentiment amoureux. Alors j'en mange beaucoup.
Meilleur que la corne de gazelle.
Oui, oh, oui. Et on peut se le procurer facilement parce que la corne de gazelle.
Dans 3-4 mois, nouveau livre à sortir.
Ouais, oh, oui. Il sort en Espagne parce que j'ai voulu que ça coïncide avec le 18 juillet, qui est le jour de le coup d'État franquiste frustré. Un coup d'État qui n'a pas marché et qui ça a donné lieu à 300 de guerre. Mais en fait, c'était un coup d'État qui n'a pas marché. Et à cette occasion, je sors le livre. C'est le 70e anniversaire. C'était en 1936.
Et voilà. Et ici, ça, ça paraîtra un peu plus tard pour la traduction, etc., à la fin de l'année.
Ça, vous écrivez en espagnol ?
Oui, jusqu'à présent. Mais là, maintenant, je prépare un livre en français. Et je le fais aussi pour le deuxième centenaire de l'invasion napoléonienne en Espagne. Et ça, je l'écris en français. Ça sera mon premier livre en français. Parce que celui-là, de la mondialisation, c'est en français, mais comme la façon dont on l'a fabriqué, avec des collaborations de uns et des autres, Ignacio qui écrit en français, bon, moi aussi, mais après, on a tout corrigé et tout unifié. Hein. Donc, ça, je ne peux pas considérer que ce soit un livre de moi en français. Le premier sera celui-ci.
On peut renverser un dictateur, mais on ne peut rien contre le libéralisme.
Dans le monde occidental, je parle d'Europe, la vieille Europe, et dans les autres pays, je ne parlerai pas, parce que bon, c'est très difficile, les pays du Moyen-Orient, les pays asiatiques, c'est très difficile maintenant d'analyser la situation. Mais Europe, États-Unis, on peut rien, je pense qu'on ne peut rien faire. Et je pense que ce qui s'est passé en France au moment du référendum pour l'Europe, ça a été une façon de protester et de ne pas accepter la mondialisation, le néolibéralisme européen. Ils vont le faire parce que les mesures que préconisait M. Bolkestein, ils sont en train de les présenter autrement et ça va passer sans référendum, sans rien. Bon, l'erreur, c'était peut-être de faire les choses comme ça dans bloc, et c'était trop voyant. Mais s'ils commencent à le faire, mesure par mesurette, ils finiront par nous faire tous passer à l'Europe néolibérale. Bon. Je ne suis pas optimiste.
Ben non.
Et non.
Rendre hommage à Ramón Chao, nous venons de diffuser cette interview En Marche, enregistrée à Nantes en 2006.
Bon, la révolution espagnole, c'est devenu pas une légende parce qu'elle a eu lieu, hein, mais enfin, c'était symbolique de la lutte en Europe contre le fascisme. Hein. En Espagne, ça a commencé là, ils sont résistés, malheureusement, ils ont été vaincus. Et la guerre d'Espagne est restée comme un modèle de ce qu'il faut résister.
Il y a aussi des intellectuels français qui se sont engagés.
Bien sûr, oui. Même qui étaient au début de droite, après ils sont passés à gauche, Bernanos. Bernanos était un catholique de droite, et quand il est allé au Majorque, il a vu ce que faisaient les franquistes avec le cimetière sur la lune. Il a complètement changé. Ensuite, il y a d'autres, bien sûr, Marron, n'en parlons pas, et d'autres intellectuels français qui sont engagés, bien sûr. Bien sûr.
Et là, mais aujourd'hui, nos intellectuels ?
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'intellectuels ?
Non.
Hola.
Buenas.
¿Qué tal?
Bien.
Il y en a, mais je voulais dire engagés à gauche. Il n'y en a pas beaucoup. Ben, je pense que Bernard Cassin est un intellectuel, que Ignacio Ramón est un intellectuel, qu'ils ont créé ATTAC, donc c'est une façon de résister, parce que c'est grâce à ATTAC que la France a voté non au référendum. Il y a des intellectuels, mais ce n'est pas des intellectuels comme Jean-Paul Sartre. C'était un intellectuel pur, mais là ce sont des intellectuels qui... journalistes, etc., qui... comme cela. Ouais.